Devenir lanceur d'alerte. Une production de la revue Les Périphériques vous parlent avec le philosophe et journaliste d'investigation Roger Langlais. 11e partie.
Parmi les instruments des lobbies que le lanceur d'alerte doit affronter, il y a les prétendus cercles d'expertise mis en place par les industriels.
Ce sont des cercles d'expertise prétendus tels qui sont mis en place très souvent par des agences de lobbying travaillant pour les industriels. Et ce qui est troublant, bien sûr, ces commissions, comités, parfois même avec des noms ronflants comme instituts, etc., c'est qu'elles sont mises en place souvent avec le concours des pouvoirs publics. Quand c'est le cas, c'est plus difficile de les affronter parce qu'elles ont la caution des autorités sanitaires ou politiques.
Et il peut y avoir des complaisances entre les industriels et certains politiques.
L'exemple le plus éloquent est sans doute celui du comité permanent amiante.
Le comité permanent amiante avait été mis en place dans les années 80, au début des années 80. Il était censé représenter la voie objective sur le sujet et il était composé de pneumologues, de représentants de chaque ministère concerné. On avait le ministère du Logement, le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, les Transports, tous les ministères concernés par l'utilisation de l'amiante. On avait aussi des représentants des industriels, qui passaient pour être des autorités médicales, ou des experts, personnalités qualifiées et autres.
Quand un journaliste se montrait un peu curieux sur le dossier de l'amiante, on l'orientait automatiquement vers ce comité.
Finalement, on a découvert, à la fin des années 90, qu'il s'agissait d'un comité financé et piloté par un cabinet de lobbying qui s'appelle Communication économique et sociale, un nom ronflant aussi qui en imposait. Communication économique et sociale, en fait, est une agence de lobbying qui travaille pour les industries polluantes et les laboratoires pharmaceutiques. Ce comité, ses membres, pour un certain nombre, étaient tout à fait complices. Pour d'autres, ils disent qu'ils se sont fait manipuler, qu'ils ont été roulés dans la farine. Et en particulier, les membres de ce comité ne relisaient même pas les comptes rendus des réunions. Et donc, le compte rendu, en fait, était assuré par le cabinet de lobbying lui-même. Donc, ils écrivaient, en fait, ce qu'ils voulaient.
Et ils éliminaient les interventions qui étaient éventuellement embarrassantes.
Pendant des années et des années, c'est ce comité qui a littéralement soutenu l'usage de l'amiante contre l'idée éventuelle d'interdire l'amiante. Il faut savoir que cette même agence de lobbying qui travaille pour les industriels, communication économique et sociale, avait monté aussi un comité permanent plomb, un comité permanent cadmium, c'est un cancérogène puissant, cadmium, comité permanent chlore, sur tout un tas de produits toxiques, l'opération était la même. C'est-à-dire que la technique consiste à réunir une table ronde avec des représentants correspondant aux différents secteurs de compétences et ça donne le sentiment d'une objectivité. En fait, il s'agit véritablement d'une manipulation et de l'opinion publique, des médias et des politiques éventuellement qui pensent eux-mêmes que finalement ce type de comité réunit de façon objective les personnalités qualifiées, capables de juger sereinement. Il faut se méfier terriblement de ces commissions d'expertise sur lesquelles les industriels, enfin du moins leurs lobbyistes, ont développé une capacité de manipulation
qui est énorme.
On avait là aussi, c'est important de le dire, des représentants des principaux syndicats, ouvriers et patronaux. Donc tout ça semblait équilibrer le débat et on devait pouvoir en tirer une conclusion valable. En fait, ce n'était pas du tout le cas puisque c'était totalement manipulé. Il y a aussi aujourd'hui une nouvelle forme de commission d'experts biaisée. Il s'agit des think tanks. En fait, les think tanks qui ont été importés des États-Unis pour l'essentiel et de Grande-Bretagne sont des
groupes
d'experts généralement financés par les industriels ou des groupes bancaires dont le travail à longueur d'année est de produire des études, des rapports, des analyses, des suggestions sur des problèmes de société et parfois même sur des problèmes toxiques. Et il s'agit la plupart du temps de groupes en fait qui sont financés par les entreprises du CAC 40. On a pu identifier les partenaires entre guillemets financiers qui sont souvent à l'origine même de la création du think tank. Et donc on trouve les grands assureurs, les grands pollueurs, bref les industriels qui ont quelques soucis pour assurer la stabilité de leur image auprès de l'opinion publique et pour maintenir leur crédibilité. Le lanceur d'alerte aujourd'hui a affaire à cette adversité qui s'auréole d'une expertise, d'un prétendu savoir, qui a énormément de poids sur les médias et sur les parlementaires. Il faut savoir que les membres des think tanks les plus influents arrivent à truster une bonne partie des médias, télévision, radio et presse écrite. Ils sont très présents. Et auprès des parlementaires aujourd'hui, j'ai pu étudier la progression de leur influence à travers les citations qui sont faites par les députés ou les sénateurs. Lorsqu'ils défendent un projet de loi ou une proposition de loi, eh bien, c'est une citation aujourd'hui quasi systématique pour soutenir leur projet. Et on voit bien, en fait, que la plupart du temps, la proposition de loi ou le projet de loi ou l'amendement sont en fait littéralement rédigés par les think tanks, c'est-à-dire par des organismes qui sont tenus par les entreprises du CAC 40. Deux exemples, parmi les think tanks qui interviennent beaucoup sur les secteurs où le lanceur d'alerte peut se retrouver dans un rapport de force sur les risques toxiques. Écologie d'avenir, qui a été créé récemment par Claude Allègre. Claude Allègre qui, avec le concours de l'Union des industries chimiques et avec de nombreuses entreprises du CAC 40 aussi, et des représentants de ces entreprises, a monté donc ce think tank qui prétend combattre les dérives et les abus du principe de précaution et qui en fait combat littéralement le principe de précaution, en le caricaturant d'ailleurs, qui réunit de nombreux scientifiques qui ont l'habitude de collaborer avec les grands industriels. Et qui a beaucoup de pouvoir et beaucoup de présence dans les médias à propos de toutes sortes de risques chimiques ou physiques.
Ce think tank est dans la rassurance et la dénégation la plus complète.
Je prendrai un autre exemple, mais il y en a tout un tas. Il y a aussi l'Institut Molinari qui siège à Bruxelles et qui combat depuis des années systématiquement le principe de précaution et qui, au passage, en ce moment, a décidé de remonter au créneau pour défendre les cigarettiers. Voilà, ce sont deux exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. En gros, pour Écologie d'avenir, il n'y a pas de danger que les industriels ne puissent pas résoudre, quoi. Et tous les problèmes posés par l'industrie en termes de pollution ou de risque sont des problèmes dont la solution est détenue par ces industriels eux-mêmes. Vous voyez, c'est la thèse. En gros, laissons-les faire, laissons-les s'autoréguler et tout ira bien. Si on écoutait Claude Allègre, il n'y a plus besoin du tout de sensibilité écologiste ou de mobilisation citoyenne. Les industriels sont de grands responsables qui trouveront des solutions à tous les problèmes qu'ils génèrent. C'est l'anti-lanceur d'alerte.
Une autre illustration récente en a été donnée par la proposition de loi du groupe UMP qui vise à déconstitutionnaliser le principe de précaution.